France Inter. Le 6-9 de l'été.
Intervenez.
Et toujours avec nous dans ce studio à l'écrivain Alexis Génie pour parler des mémoires dangereuses, livre écrit avec l'historien Benjamin Stora sur cette France qui n'en a pas fini avec son passé colonial. Un auditeur en ligne, Bertrand, bonjour.
Oui, bonjour.
Bertrand, vous êtes enseignant et vous avez une question à poser à Alexis Génie, je vous écoute.
Oui, je voulais réagir par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure concernant le fait colonial qui a été abordé en quatrième et tout dépend comment les professeurs l'abordent. Mais moi, j'insiste beaucoup sur cette question et notamment de l'affrontement entre la France et les Algériens, notamment au travers d'Abdelkader. Abdelkader était quand même une haute figure de l'islam et malheureusement pas assez mise en valeur parce que c'est un maître soufi. Voilà, donc j'ai insisté beaucoup sur cette question, donc je voulais réagir par rapport à ça.
Alexis Génie.
Donc monsieur a tout à fait raison d'insister sur Abdelkader, qui est une grande figure tout à la fois humaine, politique, spirituelle et littéraire. Cette question-là de traiter historiquement la question coloniale, elle est un petit peu laissée en effet à l'appréciation individuelle des enseignants. Donc les gens qui ont une sensibilité qui par rapport à ça vont le faire. Autrement, c'est tellement complexe, c'est tellement sensible que il n'y a pas vraiment de d'incitation officielle à le faire. On peut croire encore dans la France contemporaine être un pays en effet judéo-chrétien de race blanche. On peut le croire simplement mais c'est une illusion.
C'est se voiler la face. Enfin,
complètement. C'est le mot.
Alexis, j'ai une question via l'application France Inter. Merci de demander à votre invité, dit cette personne, si le malaise en France ne vient pas principalement du rejet de la République par les jeunes issus de l'immigration. Donc, problème inverse.
Alors, ça va en miroir. C'est-à-dire que on a en France des failles, mais qui sont pas que identitaires, qui sont sociales, qui sont économiques. On a des quartiers à la dérive, on a des populations, d'origines diverses, qui soient d'origine de l'immigration ou de souche, qui sont complètement laissées à elles-mêmes. Et du coup, il y a des sortes de repliements. En effet identitaire, mais ce sont des inventions identitaires, ce sont des néo-identités.
Et en même temps, dans le livre, vous dites, il y a eu la marche des beurs dans les années 80, ces jeunes-là se réclamaient de la France solidaire, la France ensemble, et finalement, la génération d'après n'est pas du tout dans le même état d'esprit.
Mais peut-être qu'il y a une occasion qui a été ratée au début des années 80, il y a quelque chose qu'on a... Parce que pour ce qui est de la marche des beurs, ça avait commencé par des tas de troubles, des voitures brûlées, des choses comme ça. Enfin bon, je me souviens, c'était dans la banlieue de Lyon. Cette marche, elle réclamait quoi? Elle réclamait d'être français, d'être normalement français, en fait.
Et aujourd'hui, vous trouvez que les jeunes ne réclament pas ça de la même
parce
manière?
Parce que il y a un problème qui est plus large, c'est qu'en français, on ne sait plus bien ce que c'est, on ne sait plus bien où on va. Il y a un certain malaise général. Il y a qu'à voir la foire d'empoigne pour les primaires. Qui a un véritable projet global pour la France? Personne. D'où tout le monde va à la primaire comme on achète un billet de loto, quoi. On verra bien, mais quel est le grand discours qui va nous emporter tous?
Et en même temps, Alexis Génie, vous dites avec Benjamin Stora que le Front National a tiré aussi son discours de là. On a profité à surfer sur cette vague-là.
Complètement. Et puis alors, ce qui est étonnant, c'est quand on s'intéresse un petit peu à comment vivait la colonie algérienne, concrètement, c'était trois départements français, mais où la société fonctionnait d'une façon assez bizarre. Ça correspond tout à fait à ces fantasmes du Front National, à l'imaginaire du Front National, où finalement les institutions comptent pour rien, où ce qui compte c'est des rapports de force, où soi et l'autre c'est essentiel. Je pense qu'il y a quelque chose de l'imaginaire du Front National qui s'enracine dans la colonie algérienne.
Alexis Génie, reste avec nous. Camille Magnard pour les réseaux sociaux.
Et cette question sur Twitter de Genos Pudeli qui dit « Je vis à Berlin, mes collègues venant du monde entier en savent plus que moi sur le passé colonial de la France ». On en parle justement. Comment vous expliquez ça, Alexis Génie ?
Parce que je crois que personne ne veut savoir. Parce que le passé colonial en général et le passé algérien en particulier, c'est un tel nœud, c'est une telle complication, c'est une telle complexité, c'est une telle douleur, une telle violence, qu'il est très très compliqué d'en faire une histoire simple. Dire que la France a envahi l'Algérie, puis l'Algérie s'est soulevée et a rejeté la France, ça veut rien dire. Il y a eu une société particulière qui s'est désintégrée pendant cette guerre d'Algérie. Tout le monde a trahi tout le monde a massacré tout le monde. On ne sait pas en faire l'histoire, on ne veut pas en faire l'histoire, c'est trop douloureux et trop complexe.
Alexis Génie, est-ce qu'il y a une place aujourd'hui, on parle beaucoup de l'islam de France, pour intégrer l'islam dans la société, est-ce qu'il y a une place pour l'islam à intégrer dans la société française, dans ce que vous avez vu avec Benjamin Stora?
Oui, alors il faut qu'il y ait une place pour l'islam en France. D'ores et déjà, l'islam fait partie de la culture française, fait partie de la nation française. Il y a, on ne sait pas trop combien, mais de l'ordre de 5 millions de musulmans en France, dont la grande majorité ne souhaite qu'une chose, s'intégrer à la France et à ses valeurs républicaines. Il faut que la France se reconnaisse comme étant un pays où les citoyens ont plusieurs religions. Mais de toute façon, la République laïque n'a pas à voir la religion des gens, mais elle a assuré que chacun puisse tranquillement avoir la religion qu'il souhaite.
Mais est-ce qu'une population, Alexis Génie, peut être exclue d'une société à cause de ses croyances ?
J'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se faire. Alors après, bien sûr, ces exclusions sont, il y a des réactions en miroir, c'est-à-dire que on exclut et l'exclu va s'auto-exclure en réaction. Il y a des gens qui en ce moment se jettent joyeusement l'huile sur le feu en criant au communautarisme, en criant à l'inintégration de l'impossibilité d'intégration de l'islam. Etc. Nous sommes en plein délire verbal qui est très dangereux. Il y a un fait, c'est qu'il y a une population de citoyens français qui sont musulmans et qui ont leur place ici.
Thierry est à Saint-Ouen. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Alexis Génie vous écoute.
Oui, donc j'ai une question principale qui est de savoir si effectivement le fait d'avoir colonisé tout un tas de populations au cours des siècles, ne fait pas qu'aujourd'hui, dans l'inconscient collectif, on regarde ces populations-là comme inférieures. Et ensuite, évidemment, ça entraîne le fait qu'on ne veuille pas leur faire de place aujourd'hui. Et en réaction, donc, on a les situations d'aujourd'hui. Et effectivement, comme vous venez de le dire, en plus de ça, avec des gens qui mettent de l'huile sur le feu et qui sont totalement irresponsables, quoi.
Alexis Génie.
Oui, c'est sûr qu'il y a encore ce fantasme de la supériorité innée de la civilisation européenne. Mais qui dans le monde tel qu'il est, avec qui devient un monde multipolaire, on se rend compte que voilà, il y a d'autres civilisations et d'autres lieux, d'autres pays sur cette terre. On peut imaginer que petit à petit ça s'apaisera. Par contre, ce qu'il y a, c'est ce souvenir de l'extrême violence de la colonisation et de l'extrême violence de la décolonisation, qui fonctionne comme un véritable traumatisme collectif.
Alors, il y a l'Algérie, mais Marie-Joseph a une question. Marie-Joseph, vous êtes à Pantin ?
Oui.
Allez-y, et Oxygène vous écoute.
Oui, tout à fait. J'écoute ce que vous dites et j'adhère à 100%. Et je me sens concernée parce que la souffrance de la décolonisation, je l'ai souffert, mes ancêtres en ont souffert. Et je me rends compte que
vous êtes antillaise, hein, c'est ça, Marie-Joseph?
Je suis antillaise, voilà. Je suis antillaise, mon prénom le dit tout seul. Et je suis assez surprise de constater que depuis des siècles que l'esclavage est terminé, on en est toujours au même regard de porter sur l'autre, c'est-à-dire ce regard de dominant, dominé, pas d'une façon générale, mais très très souvent. Et je trouve dommage qu'il n'y ait rien de fait déjà au niveau de l'éducation pour remédier à tous ces problèmes. On préfère glisser le problème sous le tapis.
Alexis Génie ?
Alors c'est vrai que quoi faire sur, enfin pour modifier un regard, c'est compliqué dans ce domaine-là. Avoir des finalement des bonnes intentions, en gros faire de l'antiracisme par exemple, c'est bon, c'est, je sais pas si c'est très très efficace. Bon, il faut voilà, je sais pas exactement quoi faire, mais c'est vrai que heureusement moi mon métier c'est plutôt le regard et l'analyse. Et essayer de dire les choses. Après, comment agir, eh bien là, c'est le rôle des finalement des politiques. Ça serait ça, le rôle des politiques.
Et en même temps, c'est vrai, parce que à vous lire, Alexis Génie, à lire les Mémoires dangereuses, donc paru chez Albin Michel, vous êtes quand même assez pessimiste. Hein. C'est, y a pas. On se dit que la colonisation algérienne, c'est le sparadrap du capitaine Haddock, quoi. C'est, et ça va absolument, nous poursuivre.
Absolument. Et puis c'est, alors, et en plus, la colonisation algérienne, plutôt la guerre d'Algérie, c'est aussi quelque chose qui va cacher, qui est un écran par rapport au fait colonial, ou bon, qui fait partie de notre histoire. Le livre que j'avais fait, la France est de la guerre, à ce propos, c'était essayer de voir les choses telles qu'elles étaient, d'essayer de voir notre passé, voilà. C'est pas une histoire de repentance. Il y a pas de repentance à avoir. Le passé existe, et maintenant, il faut vivre avec ce passé-là. Bon, mais vivre ensemble.
Alexis Génie, je voudrais qu'on prenne les 5 dernières minutes d'interactif pour parler avec vous aussi de votre rentrée littéraire. Vous sortez en septembre un livre qui s'appelle « Dans l'attente de toi ». C'est paru chez l'Iconoclaste. Alors on change totalement de registre, pas question de colonisation. Vous parlez d'amour et voilà, pour terminer, je trouve ce 6-9, ça fait du bien aussi de parler d'amour. Vous parlez de l'incapacité de dire « je t'aime » à une femme. Pourquoi vous avez utilisé le médium de la peinture ? Parce que là, il est question de peinture dans votre livre.
Alors,
vous pourriez nous expliquer.
C'est un petit peu paradoxal. C'est j'utilise la peinture pour dire le toucher. Alors que bon, c'est vrai que bon, la peinture c'est quand même censément un art visuel et puis on n'a pas le droit de toucher les images. Mais c'était une façon d'essayer de dire un sens qui est très très difficile à dire, qui est le toucher. La vue, on arrive à le dire. L'ouïe, on arrive à la dire. L'odeur, on arrive à la dire. Enfin, mais le toucher, qui est quelque chose d'essentiel dans la vie humaine, qui est le sens, un des plus importants, parce que c'est le sens du lien et le sens de la présence. Et dans un rapport humain, c'est toucher, c'est fondamental. On a vraiment du mal à en dire quelque chose. Et ce livre, c'est ça. C'est essayer de dire ce que c'est que toucher, ce que c'est que toucher quelqu'un. Bon, dans mon cas, c'est ce que c'est que de toucher une femme. J'ai utilisé la peinture, une certaine peinture, un certain nombre de tableaux, pour essayer d'illustrer le toucher. Alors c'est un peu paradoxal, hein, mais la peinture c'est un art assez magique qui permet de dire des tas de choses très complexes. Et donc tous les tableaux que je cite, tous les tableaux dont je parle, mettent en scène ce toucher.
Ce que vous dites, dans chaque tableau, il y a une déclaration pour l'être aimé.
Oui, parce que je m'en suis rendu compte un peu en cours de route. Tous les tableaux que j'avais pris, c'est des tableaux que je connaissais,
j'ai assemblé, voilà. Du Fragonard, du Poussin, enfin.
Et à chaque fois, le peintre connaissait très bien le modèle et que il y avait une histoire entre le peintre et le modèle et que du coup le tableau c'était une façon de raconter cette histoire entre deux personnes, entre celui qui regarde et qui peint, et celui ou celle qui s'expose.
Dans votre livre, Dans l'attente de toi, vous passez donc en revue plusieurs œuvres, vous parlez du blanc, si doux, d'une peinture de Picasso qui pourtant pour vous paraît difficile à regarder. Vous évoquez aussi l'érotisme de Fragonard. Moi j'ai noté Bacon. Bacon ne peint pas des portraits, il peint des sensations. C'est un peintre de la vie sensuelle, de la chair nue. Il peint ce dont le toucher fait l'expérience.
C'est-à-dire que Bacon, quand on voit ses toiles, dans un premier abord, on a l'impression d'une grande violence, de corps déformés, de souffrance. Mais si on regarde avec un petit peu d'attention, c'est pas tant souffrant, c'est quelque chose bon, d'un peu ironique, d'un peu dévastateur, mais avec beaucoup de tact, en fait. Tact, finalement, aux deux sens, à la fois au sens de toucher, mais à la fois au sens de la délicatesse. Bacon était un homme extrêmement intelligent et plein de tact, et plein de... Il était très, très anglais pour ça.
Alors que ses peintures sont vraiment... Enfin,
sont violentes, mais quand on voit par exemple les tableaux que dont je parle, par exemple les portraits de Georges Dyer qui a été son modèle et son amant pendant une dizaine d'années, il y a beaucoup de tendresse et beaucoup de douceur. Alors c'est paradoxal, de la tendresse et de la douceur chez Bacon, mais on voit on reconnaît le personnage, on voit comment Bacon longuement a essayé de le peindre, c'est presque comme s'il le caressait sur la toile. Et c'est quelque chose qui est très touchant.
Et chez Fragonard, vous parlez aussi de l'érotisme de Fragonard.
Alors, l'érotisme de Fragonard, alors c'est extraordinaire.
C'est des vraies découvertes. Moi, j'avoue, j'ai regardé les tableaux et j'avais pas vu ce que vous avez vu chez Rembrandt, la personne cachée derrière, chez Fragonard, tout l'érotisme de Fragonard. Comment vous avez fait pour justement...
Mais ça, c'est une fréquentation de la peinture depuis que je suis tout petit. Et j'ai beaucoup regardé les tableaux, je me suis beaucoup promené dans des musées, j'ai beaucoup regardé l'expo, et à chaque fois il y a des histoires qui sont générées par les tableaux. Dans un musée, je reste très longtemps devant un tableau et je suis dans des sortes de rêveries. Alors en histoire de l'art, j'y connais pas grand chose, mais par contre, dans ce qui se raconte dans le cadre d'un tableau, là je suis intarissable.
En deux mots, ce livre Dans l'attente de toi, c'est vous?
Oui, c'est moi, mais est-ce que ça a un intérêt que ce soit moi? Ça essaye de dire quelque chose de la proximité avec l'autre. Et je pense que là, chacun peut prendre ma place dans ce livre.
Merci Alexis Génie d'avoir été l'invité ce matin de France Inter. Je rappelle votre livre qui sort début septembre, Dans l'attente de toi, chez l'Iconoclaste. Et puis je rappelle celui qui est sorti en janvier, Les mémoires dangereuses, que vous avez coécrit avec l'historien Benjamin Stora et qui est paru chez Albin Michel.